Le journal Olivier Zano.
Avec un jingle un peu particulier. Bonsoir à toutes et à tous. Il provoque l'impatience, parfois l'incompréhension. Les travaux sur la 16 jouent avec les nerfs des automobilistes. Une signalisation quelque peu floue est pointée du doigt, sans parler des retards sur l'agenda. On fait le point en ouverture de ce journal. De la route, on passera ensuite au rail. On célèbre les 150 ans des chemins de fer dans le Jura bernois. La revue Intervalle y consacre son nouveau numéro. On vous présente le concept dans quelques instants. Et puis coup d'envoi ce jeudi du Chant du Gros. Le festival de musique démarre en ce moment au Noirmont. Nicolas Meusy est sur place. Il nous parlera de l'ambiance sur site. Ambiance humide, mais belle ambiance quand même, vous l'entendrez. Jeudi humide donc, mais la pluie qui devrait se calmer dans la soirée. Tant mieux pour les festivaliers. Demain encore quelques nuages le matin et puis on passera un temps relativement bien ensoleillé. Température agréable au menu, 22 à 24 degrés au meilleur de la journée. Le mercure qui grimpera encore jusqu'à samedi. Les automobilistes devront encore s'armer de patience. Les travaux sur la 16 entre Lovraisse et Sonsbeau ont pris du retard. Le chantier qui aurait dû se terminer le 25 juillet a été ajourné pour deux raisons. Les pluies trop abondantes et les températures trop basses du début d'été ont empêché la pose de la couche de roulement sur la route. On fait le point sur l'agenda des travaux sur ce tronçon avec le porte-parole de l'Office fédéral des routes, les précisions d'Olivier Floïc.
Les travaux d'enrobés, c'est finalement pas la chose la plus compliquée que l'on doit faire, mais évidemment, si les conditions météo ne le permettent pas, eh bien, nous sommes obligés de replanifier en cours de travaux, ce qui n'est jamais un exercice simple.
Mais qu'est-ce qu'il reste à faire concrètement ?
Deux semaines de travaux avec des fermetures de nuit et des sorties forcées au niveau de la jonction de Moutier Nord. Donc on va terminer vraiment ces travaux. Pour l'instant, la météo n'est pas trop défavorable. On ne peut pas dire non plus qu'elle soit favorable, mais elle n'est pas trop défavorable et devrait nous permettre effectivement de tenir ces délais. Donc, espérons qu'on puisse achever l'intégralité des travaux en deux semaines.
En attendant, de nombreux usagers témoignent de leurs difficultés à comprendre la signalisation routière et les changements de règles de trafic incessantes sur le tronçon Lovraisse-Sonsbeau. Olivier Floïc admet que ce manque de clarté puisse perturber les utilisateurs.
Très clairement, il faut rappeler aux usagers de la route de bien suivre les informations qui sont mises en place, en l'occurrence suivre donc ce fléchage. Mais c'est juste effectivement qu'il y a eu passablement de changements de phase, si vous voulez bien, puisque c'est un chantier mobile. Hein. Lorsque l'on a terminé une partie en fait, de ce tronçon que l'on doit remplacer, eh bien, on attaque un autre tronçon et par conséquent, évidemment, on est dans un système de gestion provisoire du trafic qui bouge pratiquement au jour le jour en fonction de l'avancée des travaux. La première des choses, c'est de remercier en fait les usagers de la route pour leur patience et pour leur compréhension en leur disant que ces travaux sont désormais à bout touchant, en tout cas, ils sont déjà terminés sur le tronçon Bure-Boncourt. On arrive gentiment à bout, effectivement, pour ce tronçon autour de Sonsbeau. De nouveau, un tout grand merci pour leur patience et leur compréhension, mais une fois ces travaux achevés, on ne devrait pas intervenir avant plusieurs décennies, ce qui est en soi, je dirais, une bonne nouvelle.
Olivier Floïc, porte-parole de l'Office fédéral des routes, répondait au micro de Céline Roduit. Et sur ce tronçon, d'ailleurs, un accident de la route a eu lieu aujourd'hui, peu avant 14h. Deux véhicules sont entrés en collision vers la sortie de Tavannes. Collision sans gravité, la circulation n'a pas été perturbée. 1874, l'année où les trains ont commencé à circuler dans le Jura bernois. 150 ans donc que les chemins de fer permettent aux habitants de la vallée de Tavannes, du vallon de Saint-Imier et du Jura historique de se déplacer plus vite et plus loin, mais aussi de transporter des marchandises. La revue Intervalle a décidé de consacrer son nouveau numéro, le 129e, à cette thématique. C'est l'Imérien Francis Detviller, fin connaisseur du développement du réseau de chemin de fer dans la région, qui en est l'auteur. Il revient sur les raisons de l'arrivée du train dans le Jura bernois de l'époque, qui comprenait aussi l'actuel canton du Jura et le Lophonais Francis Detviller.
Pour des raisons qui, je dirais, sont les mêmes qu'on trouve partout ailleurs, le chemin de fer était un facteur de progrès, c'était le nouveau moyen de communication. Et le Jura bernois, qui était déjà avant le chemin de fer une région industrialisée avec l'horlogerie, mais aussi avec une certaine industrie métallurgique, a voulu lui aussi bénéficier du progrès.
Comment le tracé, finalement, les tracés ont été choisis? Comment on a décidé par où allait passer ce train?
Premier élément qui a dicté le choix, c'est, comme aussi la plupart des lignes de chemin de fer, c'était le tracé des rivières. Depuis bien, on remontait la Suze jusqu'à Sonsbeau, et ensuite jusqu'à Chaux-de-Fonds. En revanche, là, il y a une première discussion à l'époque pour la continuation en direction de Moutier, soit en passant sous le Pierre Pertuis qui a été réalisé, ou bien tunnel qui aurait été plus direct sous le Monteau. Et le choix du Pierre Pertuis a été fait, puisqu'à l'époque, il semble que la principale fonction de la ligne de chemin de fer sur une desserte fine, ce tracé par le Pierre Pertuis permettait de toucher davantage de localités.
Francis Detviller, auteur de la revue Intervalle, 150 ans des chemins de fer dans le Jura bernois, au micro de Séverine Boé. Le Chant du Gros est prêt à faire vibrer le Noirmont. La 32e édition du Festival de musique franc montagnard s'ouvre ce soir. Plus d'une quarantaine de groupes ou artistes fouleront les scènes du Chant du et celles du Petit, du Gros jusqu'à samedi. Nicolas Meusy, vous êtes sur place au Noirmont. Chant du Gros 2024, quelle est l'ambiance à quelques minutes du tout premier concert, Nicolas ?
Eh bien, l'ambiance est humide et pluvieuse, mais joyeuse quand même. Il a tombé des cordes en milieu d'après-midi ici au Noirmont. On a droit maintenant à une petite accalmie, même s'il pleut encore. Mais je vous rassure, la météo s'annonce bien plus clémente pour demain et samedi, avec peu ou pas de pluie. Ce temps maussade n'efface évidemment pas les sourires des visages des festivaliers équipés de caouets, pèlerines et autres bottes. Les portes, elles, ont officiellement ouvert à 17h et les visiteurs affluent pour assister au premier concert qui débute dans une dizaine de minutes sur la scène principale. Ce sera le groupe venu de Corse, Imouvrini. Francis Cabrel et Claudio Capeo prendront le relais sur la Sainte-Seine, alors que sur les planches secondaires, les rappeurs jurassiens Sims et français Hugo TSR ainsi que le reggae de Big Aranks mettront le feu à la scène déménage. Demain, 16, Pascal Obispo ou encore Joey Starr se produiront au Noirmont. Et samedi, pour clore cette édition, Patrick Fiori, Slimane, Soul King ou encore Archive s'en donneront à cœur joie. Sans oublier le chapiteau du Petit du Gros qui fait la part belle aux artistes suisses. Un programme copieux donc pour ces trois jours de festival, avec un Chant du Gros à guichet fermé depuis le mois de juin. Mais le festival met chaque jour en vente une centaine de billets. Plus de 40 000 festivaliers sont attendus du côté du Noirmont jusqu'à samedi.
Merci Nicolas, on espère que vous avez mis vos bottes. Un chant du Sangadou, c'est pas vraiment un chant du. On vous fera vivre ce 32e Chant du Gros avec des émissions spéciales donc en direct du Noirmont, mais aussi des reportages et des galeries photos. Les finances fédérales sont dans le rouge. Il faut économiser jusqu'à 3 milliards. La ministre des Finances, Karine Keller-Souter, a demandé à 5 experts de faire des propositions. Ils en ont fait 60, représentant 5 milliards d'économies par an en 2030. Les experts ont détaillé leur plan ce jeudi à Berne. Le programme inclut l'augmentation des dépenses pour l'armée, transfert des charges vers les cantons et coupes dans le social. Le président du groupe d'experts, l'ancien chef de l'administration fédérale des finances, Serge Gaillard.
La conclusion principale, c'est qu'on peut rétablir l'équilibre des finances en économisant un peu partout un peu, mais sans mettre en question le frein à l'endettement et sans que des fonctions importantes de l'État en souffrent. En pourcentage des dépenses sociales, il y a peu d'économies. On touche ni les rentes ni d'autres prestations. Et si on réussit à freiner la croissance des coûts dans le domaine des assurances maladie, tous les citoyens en profitent en forme de cotisations qui augmentent moins. Nous avons développé un scénario dans lequel les dépenses de l'armée augmentent moins que ce qui est prévu. Et nous avons décrit dans le rapport qu'est-ce que ça voudrait dire pour les capacités de défense de la Suisse. Mais ce n'est pas la variante principale.
Ce groupe d'experts donc était composé de Serge Gaillard, de deux professeurs des universités de Berne et Lucerne et des anciens parlementaires fédéraux fribourgeois Ursula Schneider-Schüttel et Jacques Bourgeois qui ont longtemps siégé à la commission des finances. Les experts disent n'avoir eu aucun tabou, ils ont même raboté dans une subvention votée par le peuple pour accélérer le remplacement des chauffages à mazout afin de protéger le climat. Jacques Bourgeois pilotait la commission parlementaire qui a voté ce projet, ce qui ne l'a pas empêché d'en débattre.
Je ne me renie pas du tout parce que la taxe CO2 sur les combustibles, un tiers est dévolu pour le soutien des programmes bâtiments. Ce tiers reste. Nous l'avons, dans le contexte du Parlement, lorsque j'étais au Parlement, renforcé ce programme bâtiment à 100% sous les finances fédérales. Maintenant, on est dans une nouvelle donne et dans le cadre de l'analyse, on s'est aperçu aussi qu'il y a des effets d'aubaine. Il y a aussi le fait que les cantons, c'est eux qui mettent en place ce programme bâtiment, ils ont des possibilités, par exemple en fixant de nouvelles prescriptions ou bien des incitations, par exemple le fait de pouvoir au niveau fiscal, au niveau cantonal, de dire ben, lorsqu'on investit, on déduit peut-être pas un franc sur un franc, mais un franc 50 lorsqu'on investit un franc. Donc il y a des possibilités qui sont données au niveau des cantons.
Le Conseil fédéral organise des tables rondes consacrées aux économies proposées par les experts la semaine prochaine avec les partis politiques où la gauche dénonce un démantèlement social, puis avec les cantons qui rejettent d'ores et déjà tout report de charges. Puis le gouvernement présentera un rapport au Parlement d'ici la fin de l'année. La France, enfin, a son premier ministre. Le président de la République, Emmanuel Macron, a nommé Michel Barnier à ce poste cet après-midi. Ancien commissaire européen de droite et ex-ministre sous Chirac et Sarkozy, l'homme de 73 ans, est chargé de constituer un gouvernement de rassemblement au service du pays, explique l'Élysée. Cette nomination met surtout fin à une interminable période de consultation. Guillaume Joly.
Il aura fallu attendre 60 jours après le second tour des élections législatives qui ont débouché sur une Assemblée nationale dépourvue de majorité pour qu'un nom soit enfin retenu par Emmanuel Macron. Car des papables au poste de Premier ministre, il y en a eu. Bernard Cazeneuve à gauche, Xavier Bertrand à droite, Thierry Baudet, président du Conseil économique, sans oublier Lucie Castet de la France insoumise. Mais tous ont été écartés par le président de peur que son gouvernement ne soit immédiatement censuré par l'Assemblée nationale. C'est donc Michel Garnier, vieux routier de la politique, qui aura cette mission presque impossible de rassembler suffisamment pour survivre à une censure parlementaire. Et ce n'est pas gagné. Sa nomination a immédiatement fait réagir la gauche radicale qui parle d'une élection volée. Nous entrons dans une crise de régime, lance-t-on du côté des socialistes, alors qu'à l'extrême droite, on dit attendre le discours du nouveau Premier ministre avant de se déterminer sur une censure.
Et à noter qu'à 73 ans, Michel Barnier devient le plus vieux Premier ministre de la Ve République. Il succède à Gabriel Attal, 35 ans, qui était lui le plus jeune.
Et il est 18h12.
Sport. Deux Biennoises sont sur le point de réaliser leur rêve, participer au championnat du monde de roller freestyle. Les World Skate Games se déroulent du 6 au 22 septembre à Rome. Léa Bolst et Carla Hilpert seront de la partie et elles s'entraînent depuis des années pour décrocher leur qualification à cet événement. Pour elles, cela représente un accomplissement. Carla Hilpert, 19 ans, nous décrit ce sport qui est encore méconnu du grand public.
C'est un sport qui est encore assez nouveau. C'est du coup dans un skatepark avec des rollers qui ont en général que deux roues, une devant, une derrière. Je pense qu'on est à peu près la deuxième génération qui faisons activement ce sport. Ce qui va se passer à Rome, c'est donc les championnats du monde et il y a la discipline de roller freestyle. Ce qui nous importe en fait, c'est de gagner en expérience pour que dans le futur, on puisse mieux performer. Et c'est aussi un moment de partage avec d'autres filles qui font du roller. Parce qu'ici à Bienne, on est souvent que les deux, moi et Léa. En tout cas en Suisse et même en général dans le monde du roller, il n'y a pas beaucoup de femmes qui pratiquent ce sport. Et nous, on aimerait vraiment promouvoir ce sport et que l'égalité des sexes aussi au niveau des participants.
Des propos recueillis par Yannick Catin, les aventures de Léa Bolst et Carla Hilpert au World Skate Games de Rome sont à suivre sur leurs réseaux sociaux. Les deux femmes seront en lice le 18 septembre. C'est une nouvelle ère qui démarre dans le nord de l'Europe pour l'équipe de Suisse de football. Elle défie le Danemark ce soir à Copenhague pour son entrée en lice dans la Ligue des Nations. Une compétition qui la verra défier également l'Espagne et la Serbie. Notre équipe nationale évoluera sans Yann Sommer, Xherdan Shaqiri et Fabian Scher, trois piliers qui ont annoncé dernièrement leur retraite internationale. Les nouveaux choix du sélectionneur Murat Yakin seront donc particulièrement scrutés. Une certitude, Gregor Kobel prendra place dans les buts. La surprise pourrait venir du remplacement de Fabian Scher où la rumeur d'une titularisation de Denis Zakaria se répand depuis quelques heures après les propos de Murat Yakin.
Denis hat eine Führungsrolle in Monaco. Ja, wir spielen ein System.
Denis a un rôle de leader à Monaco. On joue un système avec deux milieux axiaux. On a beaucoup de concurrence à ce poste-là. J'essaie toujours d'intégrer les joueurs en forme dans mon système pour qu'ils contribuent à notre développement. Mais je verrais bien Denis en tant que défenseur central. Pourquoi pas aussi sur le côté. C'est un joueur qui est dynamique et qui est bon physiquement. Alors on verra.
Un dossier réalisé par notre envoyé spécial à Copenhague, Michel Léoni. Le duel entre le Danemark et la Suisse commence à 20h45. Vous entendrez des réactions demain dans la matinale. Merci d'avoir été avec nous. Excellente soirée.